Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
La vie humaine en sa fragilité, c'est la réflexion que nous vous proposons de mener dans trois émissions successives. La première apportait une réflexion théologique sur la personne humaine en sa fragilité. La deuxième, aujourd'hui, propose d'interroger la fragilité de la fin de vie. Fragilité et fin de vie, c'est la réflexion que nous vous proposons aujourd'hui avec le docteur Marie Bourgoin. Bonjour docteur. Vous êtes médecin en soins palliatifs à l'Oncopole de Toulouse. Je précise que vous êtes aussi doctorante en philosophie. Quelques mots peut-être pour commencer à propos de votre choix de travailler en soins palliatifs. Alors c'est vrai que l'imaginaire collectif considère que c'est pas facile d'accompagner des personnes en fin de vie et pour lesquelles il n'y a, a priori, hein, plus de perspective de guérison. Qu'est-ce qui vous anime ?
Alors, je ne sais pas trop ce qui m'a conduit jusque-là. Je pense que ça s'est finalement fait assez naturellement. Alors, ma mère est médecin généraliste. Elle avait participé à la création du réseau de soins palliatifs il y a une trentaine d'années maintenant. Donc, je pense que c'est un chemin qui s'est fait assez naturellement. Après, je pense qu'initialement, quand on arrive dans une carrière médicale ou en tout cas dans des études médicales, on se projette plutôt sur effectivement des activités de type urgence ou voilà. Et puis parce que voilà, je crois qu'on a envie de guérir les patients et de sauver les patients qu'on rencontre. Et puis je crois qu'il y a aussi une prise de conscience que finalement, même si la médecine peut aujourd'hui beaucoup de choses, elle ne peut pas tout, et que la question de l'accompagnement et du soulagement et de la présence au chevet des patients qui eux ne guériront pas était importante. Je crois que c'est ça qui m'a conduit jusque là.
Et vous avez parlé de sauver les patients et on en parlera justement de ce mantra sauver des vies parce qu'on se rend bien compte que ça peut être source de vulnérabilité. Pour introduire votre propos sur la fragilité humaine, vous avez souhaité faire référence au récit mythologique d'Achille. Donc, il a pour mère Thétis et pour père Pelée, donc c'est un mortel. Mm-hmm. Thétis veut préserver son fils de la mort et pour cela, elle le plonge dans le Styx, qui est le fleuve qui sépare le monde des morts et le monde des vivants. Elle prend garde quand même à le maintenir par ce fameux talon. Et malheureusement, le talon d'Achille est transpercé par une flèche envoyée par Paris. Paris a été guidé par la main d'Apollon. Qu'est-ce que vous suggère ce récit, docteur Marie Bourgoin?
Alors, la première chose, c'est qu'on voit bien qu'il y a cette crainte de la mort qui apparaît, et cette volonté aussi peut-être de protéger nos proches, encore plus quand il s'agit de nos enfants, et que si on pouvait les épargner de cette fatalité, je crois qu'on ferait tous ce choix. Et puis, il y a je crois que ça illustre quand même que depuis l'Antiquité, et sans doute bien avant, il y a déjà cette question d'une quête autour de l'infaillibilité, l'invulnérabilité et l'immortalité, bien entendu. Et donc, ça, à mon sens, ça révèle quelque chose qui est vraiment inhérent à notre humanité, cette question de la difficulté à la confrontation à notre fin, évidemment.
Difficile d'assumer ses limites.
Ouais,
et en tout cas, on le voit bien avec l'intelligence artificielle les technologies qui permettent de vivre le plus longtemps possible. C'est pour repousser les limites de la mort.
Bien sûr, oui, jusqu'à l'uploading, où on téléchargerait notre conscience, si on pense au post-humain. Humanisme.
Alors, on va commencer par distinguer la fragilité de la vulnérabilité. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous pourriez nous donner peut-être comme exemple pour illustrer cette distinction?
Alors, l'idée, c'est peut-être de vous partager quelques récits de patients que j'ai pu rencontrer. Alors, je ne vais pas parler à leur place, bien entendu. Je ne peux témoigner que de la rencontre que j'ai eue avec eux et de ce que peut-être moi-même j'ai projeté dans cette rencontre-là. Mais je peux vous parler, par exemple, de Michel. Michel, c'est un patient qu'on a rencontré déjà il y a plusieurs mois, qui a 90 ans environ, qui vit dans un petit village, seul dans une maison avec son frère. Il habite au premier étage et son frère vit au rez-de-chaussée. Et depuis plus de 20 ans, Michel, il fait des tumeurs cutanées qui se répètent. Donc, il a été très régulièrement opéré, il a eu de la radiothérapie. Régulièrement, ça a fonctionné sur ses masses tumorales. Mais lorsqu'on le rencontre, malheureusement, il a une tumeur qui est très mal située parce qu'elle est située au niveau du visage. Et malheureusement, même s'il garde un traitement par voie orale pour essayer de freiner l'évolution de sa maladie, on ne peut plus faire de radiothérapie, on ne peut plus faire de chirurgie. Et donc, il a une grande partie de son visage, toute la partie inférieure, qui est une plaie béante, en fait. Donc il ne peut plus s'alimenter par la bouche, il n'a plus de bouche en réalité, on voit uniquement sa mâchoire inférieure et il est alimenté avec une gastrostomie.
Comme les gueules cassées
exactement,
de la Première Guerre
tout
mondiale.
Hein. Mais sans possibilité de reconstruction.
Ouais, c'est
voilà. Donc c'est vrai que forcément rencontrer Michel, c'est extrêmement compliqué. Vivre avec lui pour son frère, c'est extrêmement compliqué. Donc finalement, tout le monde évite un petit peu le contact avec lui. Il a des infirmières libérales qui sont souvent le soutien qu'on a à domicile, qui continuent de venir le voir. Mais voilà, il n'a plus de contact avec son entourage. Et même quand il vient à l'hôpital, ben finalement... alors, il y a eu le Covid, donc il porte un masque. Donc, c'est plus acceptable à la vue des autres. Mais néanmoins, on évite de le faire attendre en salle d'attente. On l'installe immédiatement dans des chambres seules, etc. Donc, il y a quelque chose de cette vision autour de la question de la fragilité qui est extrêmement importante.
Oui. Et donc... La fragilité chez lui, c'est cette maladie qui en fait est inguérissable.
Oui.
Et qui saute aux yeux en tout cas de son entourage.
En tout cas, je crois que la fragilité, elle est intrinsèque à notre existence. On est tous fragiles. On en a par contre plus ou moins conscience, ou on tente plus ou moins de l'oublier. Quand on est confronté à la question de la maladie, c'est comme si la fragilité, c'était un élément biologique finalement. Elle est en nous, et puis la maladie vient révéler ça. Il y a une destruction des tissus, et il y a quelque chose qui est rendu visible. Donc la fragilité, étymologiquement, c'est ce qui peut se casser, ce qui peut se briser, c'est le manque de solidité, et c'est vraiment quelque chose qui est fondamental à notre nature, et c'est aussi l'expression, bien sûr, de notre limite, et elle s'incarne évidemment... dans la question de la mort, mais on est fragile bien avant d'être mort. Mmh. La vulnérabilité, c'est plutôt le fait que la fragilité est rendue visible à l'autre, finalement, et c'est pouvoir être blessé par l'autre, où on est vulnérable à la vue d'autrui. Donc la vulnérabilité, en fait, c'est plutôt la question de l'altérité. C'est le regard de l'autre... Le regard, en tout cas, que l'autre porte sur notre fragilité. Et peut-être qui potentialise encore cette question de la fragilité. C'est-à-dire que dans le regard de l'autre, je suis encore plus fragile que je ne le suis naturellement.
Oui, parce que autant quand vous parlez de Michel qui a sa plaie béante sur la bouche, lui ne la voit pas.
Oui.
Mais en fait, il en prend d'autant plus conscience
tout
par le regard des autres.
Exactement.
Et par une attitude qui peut être une attitude de dégoût ou de recul.
Oui, complètement. Ouais. Complètement.
Donc cette vulnérabilité, elle est vraiment dans l'altérité. Elle se situe vraiment dans l'altérité.
Enfin, en tout cas, moi, c'est le point de vue effectivement que je défends, parce que souvent on confond cette question de fragilité et de vulnérabilité. C'est voilà, c'est alors bien entendu, bon, vous l'avez dit, moi, j'aime réfléchir à ces questions philosophiques. Donc en philosophie, on essaie de réfléchir vraiment à cette subtilité sur les termes. Et je crois qu'il y a une nuance qui est importante, c'est qu'en fait, cette vulnérabilité, elle est vraiment présente parce qu'il y a autrui. Voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui voit que l'on est fragile, en fait, et qui nous en fait d'autant plus prendre conscience.
Oui, c'est ça. Et donc, si on revient sur cet exemple de Michel, en quoi est-il fragile et en quoi est-il vulnérable ?
Ben, moi, je dirais qu'il est fragile parce qu'il est malade et parce que la maladie... alors, il est fragile en réalité parce qu'il est vivant, finalement. On est fragile parce qu'on est vivant. Une pierre est sans doute pas fragile, mais tout être vivant est fragile. La maladie, en tout cas, vient révéler cette fragilité. Et il va être vulnérable par... son entourage, par les soignants qui vont être présents, par le regard que l'on va porter sur lui.
Alors, c'est intéressant ce que vous dites, docteur Marie Bourguin, parce que ça veut dire que nous, en tant que proches d'un malade, d'une personne âgée, et vous, en tant que soignant, le regard ou l'attitude que nous pouvons et que vous pouvez avoir sur un malade est extrêmement important.
Oui. Alors effectivement, si on revient toujours sur ces questions étymologiques, on a oublié que la question de la vulnérabilité, en fait, donc ça vient du latin, hein, vulnérabilis, mais vulnérabilis, on peut le traduire de deux façons. C'est qui peut être blessé, mais c'est aussi qui peut blesser. Alors c'est vrai que nous, dans le terme vulnérabilité qu'on a gardé dans notre français, on n'a plus cette question de cette réciprocité, mais en réalité, on voit bien que dans la dimension de la vulnérabilité, il y a ces deux éléments. Et effectivement, ça veut dire qu'à travers cette question de la vulnérabilité, alors les soignants, mais j'ai envie de dire au sens large finalement, la société, porte une question de responsabilité. Et effectivement, la vulnérabilité, je crois que c'est l'éveil de la responsabilité.
Oui, en tout cas, c'est bien de le rappeler aujourd'hui. Alors, quand on parle de fragilité, vous avez dit qu'elle était inhérente à la personne humaine. Hein. On est fragile, on est du verbe naître. Mais c'est vrai que cette fragilité, on n'en veut pas. Hein. On n'aime pas être confronté à ses limites. On ne veut pas se sentir invincible. Enfin, on veut plutôt se sentir invincible, on veut se sentir tout puissant. Comment l'annonce d'une maladie se heurte justement à ce désir de toute puissance?
Alors, c'est vrai que dans notre vie quotidienne, voilà, je crois qu'on essaye, alors consciemment, inconsciemment, voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé sur ces questions-là, sans doute beaucoup de psychanalystes, et d'ailleurs, j'espère ne pas faire d'erreur ce matin, mais en tout cas, je pense que sans doute, on évite d'avoir cette conscience-là. D'ailleurs, ces questions autour de la maladie et de la mort, c'est parfois très difficile d'en parler avec des personnes qui ne sont pas de ce milieu-là. Hein. Alors ça, c'est une expérience dont peuvent témoigner beaucoup de soignants, je pense. Mais voilà, quand on a par exemple un conjoint qui n'est pas soignant, bah, c'est des questions qu'on aborde rarement à la maison. Parce que c'est difficile et parce que je crois que nous, on a fait le choix. Faut-il savoir si c'est réellement un choix, mais en tout cas de se confronter à ces questions-là tous les jours.
Nous, en tant que soignants.
Nous, en tant que soignants, exactement. Et que la grande majorité de la population préfère ne pas penser à cette question de la maladie, de la vieillesse, du handicap et de la mort, bien entendu. Donc je crois que dans nos comportements quotidiens, c'est quelque chose en tout cas qu'on tente d'oublier. Et à mon sens, effectivement, fort heureusement, parce que sinon peut-être que si on était en permanence préoccupé par ces questions-là, ce serait compliqué. Mais en tout cas, ça s'illustre dans des comportements. Quand on pense à l'adolescence, c'est bien entendu, voilà, je pense sans doute un exemple très marquant de ce moment-là où on a un peu ce sentiment d'invulnérabilité, de toute puissance, et on croit que voilà, rien ne peut nous arriver. Donc il y a toutes ces questions de comportement à risque. Mais en réalité, ces conduites à risque, elles se poursuivent. Hein, voilà, conduire vite sur la route alors qu'on sait que c'est interdit et qu'on peut s'exposer à un accident de la route. Oui, mais ça n'arrive qu'aux autres. Il y a un peu ce sentiment-là. Ça n'arrive qu'aux autres. Donc effectivement, quand la maladie est présente, en tout cas quand on annonce voilà, une maladie grave, d'autant plus si elle est incurable et encore plus si elle a un retentissement sur bien sûr le pronostic vital, il y a quelque chose effectivement qui nous fige en fait, qui fige dans un présent où bah, finalement ce dont on ne voulait pas prendre conscience bah, s'impose finalement. Alors dans ces moments-là, bien entendu, il peut y avoir beaucoup de réactions. Alors, on parle de mécanismes de défense ou de mécanismes psycho-adaptatifs. Voilà, alors qu'on entend tous, hein, le déni, la colère, le marchandage. Voilà, il y a effectivement comment dire, des processus psychiques qui sont là finalement pour venir protéger le patient.
C'est de la protection.
Voilà, de cette réalité insupportable, voilà. Mais c'est vrai qu'en tout cas, inévitablement, cette question de la fragilité, elle va se révéler. Après, ce que je crois important, c'est que le fait que l'annonce d'un diagnostic vienne révéler la fragilité, c'est obligatoire. On ne peut pas faire autrement. À partir du moment où on dit à quelqu'un qu'il va être malade, enfin qu'il est malade, inévitablement, on lui rappelle qu'il est fragile et que sa vie peut s'arrêter à tout moment, finalement. Là où il y a une responsabilité, je crois que c'est dans la façon dont on va accompagner cette annonce diagnostique, c'est que à nous de ne pas le rendre vulnérable. Donc à nous peut-être, dans notre regard et dans notre façon de l'accompagner, de ne pas renforcer ce sentiment de fragilité.
Voilà, ça, et par exemple, ça passe par quoi? Pour ne pas montrer cette vulnérabilité?
C'est donc sur le moment du diagnostic, quand c'est quelque chose de très précoce, peut-être que c'est compliqué, on pourrait s'intéresser à la question de la pitié, par exemple. Ah, voilà, oui. Je crois qu'il ne faut pas que ces personnes-là engendrent de la pitié. Là aussi, on pourrait, Stéphane Zweig, il avait écrit la pitié dangereuse. Voilà, c'est exactement ça. Je crois qu'effectivement, c'est sans doute pas ce type de sentiment qu'il faut présenter. Je crois que c'est que la maladie ne dissimule pas la personne qui est celle que l'on rencontre et celle à qui on annonce ce diagnostic-là. Donc je crois que notre responsabilité, elle est que la maladie, les traitements ou autres ne doivent pas dissimuler la personne qui est derrière. Donc ça, je crois que c'est important. Après, bien entendu qu'il y a des situations qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres. Michel, quand on le rencontre et quand on le voit avec ce visage qui est, on peut le dire, cauchemardesque. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est... Objectivement, c'est une situation qui est extrêmement difficile. Je crois que c'est vraiment un travail sur soi. Et puis, on n'est pas parfait. Hein. Enfin, voilà, ces questions, elles sont intéressantes pour y réfléchir et aussi pour se remettre en question dans nos pratiques. Il faut travailler sur soi. Je crois que c'est cette question de se rendre compte de ce que ça peut générer chez nous. pas de le refuser parce qu'on est humain et que voilà et que nous aussi ça nous fait peur de pouvoir être dans la même situation, encore plus quand on y est confronté de façon quotidienne, mais qu'il y a quelque chose d'une responsabilité à ne voilà à ne pas laisser transparaître ce qu'on pourrait ressentir. Quelque chose qui serait comme un au-delà. Il faut qu'on aille au-delà de ça. Il faut qu'on aille au-delà de la question de l'apparence.
Voir la personne, indépendamment de sa maladie. Ouais. Alors, il y a peut-être aussi un autre point d'attention à avoir vis-à-vis de la personne pour préserver sa vulnérabilité. C'est parfois, quand il y a l'annonce d'un cancer, le soignant dit « mais vous allez vous en sortir » et puis on part dans un combat.
Oui.
Et ça, est-ce que ce n'est pas aussi une façon de repousser la vulnérabilité?
Alors, si, alors c'est des éléments qui sont très discutés. Il y a d'ailleurs un podcast à ce sujet qui a été fait par des psychologues à Longopole sur cette question de vulnérable mais pas coupable et sur cette question un peu des injonctions qu'on peut ressentir, parce qu'effectivement le combat ça reste encore un refus de la vulnérabilité. Se montrer combatif, c'est reprendre en fait des éléments de puissance. C'est comme si on reprenait une sorte de maîtrise sur ce qui nous arrive. Alors peut-être que pour certains patients, il peut y avoir des phases de ce type-là qui sont nécessaires. Je pourrais pas du tout en juger. En tout cas, je crois que c'est pas aux soignants d'impulser forcément cette dynamique-là. Je crois que nous, ce qu'on doit révéler, c'est, alors je dirais la question des capacités, c'est-à-dire même si le patient est percuté par la question de la maladie, et à travers la maladie, il y a la question de la perte, hein, bien entendu, quelle qu'elle soit, la perte d'une fonction, la perte d'un rôle social, nous, on a un rôle pour révéler ce dont il est toujours capable et de lui permettre peut-être de voir les choses différemment. Mais ça ne veut pas forcément dire rentrer dans un combat. En tout cas, je pense. Je pense que le combat et cette question de finalement, ça peut engendrer chez les patients la nécessité de porter un masque et de se montrer fort. Or, on a le droit, quand on est malade, de dire que c'est difficile et de se montrer fragile. Je crois que être fragile, c'est pas une faiblesse, en fait.
Ouais.
C'est pas une faiblesse, je crois que c'est ça qu'il faut...
Oui, ça c'est important. Dans la relation entre le patient et le soignant, patient-médecin, il y a donc le soignant. Dans quelle mesure, lui, il est confronté à ce désir de toute puissance?
Alors, je crois que la question, effectivement, du soignant, elle est éminemment complexe parce que... pour le coup, si on est fragile, on ne naît pas soignant, on le devient.
Ah oui.
je crois qu'effectivement, c'est un chemin, c'est un parcours, et c'est un parcours sur lequel, bien entendu, on est entre guillemets formaté. Alors, comme dans tous les corps de métier, hein, on rentre dans des études médicales. Alors voilà, je vais parler des études de médecine, mais on pourrait l'élargir bien sûr à tous les professionnels de santé, mais je préfère parler de ce que je connais.
De ce que vous connaissez.
Mais en tout cas, cette question de rentrer en études de médecine, même si on peut dire qu'on a une vocation, je crois qu'on ne s'imagine pas du tout ce que c'est que la confrontation ensuite au réel. Et donc, finalement, autour de ces études, bien sûr, il y a une quantité d'informations théoriques que l'on acquiert, mais il y a aussi tout ce qui est du savoir-être, c'est-à-dire du savoir se comporter. Mais ce savoir se comporter, c'est aussi, alors on appelle ça l'éthos, cette question de qu'est-ce qui fait que finalement nous sommes reconnaissables dans notre corps de métier. Et ça se fait sans doute très inconsciemment, mais c'est le comportement.
La blouse blanche.
Exactement, j'allais dire le costume. C'est exactement la façon de se comporter, le langage, bien entendu. Et ça, c'est ce qui fait qu'un médecin est reconnaissable parmi les siens. Mais on oublie effectivement que cette question-là, elle conduit aussi à transmettre une posture professionnelle. Et que cette posture, elle est dédiée bien sûr à la maîtrise de son art, mais il y a la question justement de la maîtrise. Et dans cette question de la maîtrise, qui peut être très positive bien entendu quand il s'agit de compétences théoriques, c'est aussi quelque part maîtriser, c'est aussi une volonté de puissance et de toute puissance peut-être parfois. Mmh. Et en tout cas, ça transmet une posture, c'est-à-dire c'est aussi quelque chose qui peut nous être transmis parfois, c'est que le rôle du médecin, c'est d'être là pour rassurer. Quand vous parliez tout à l'heure de la question de « on va se battre »,
oui, c'est ça.
C'est aussi une certaine, donner confiance au patient, le rassurer et du coup, surtout, alors c'est des choses qui me restent parfois de ma formation, c'est que j'ai eu des médecins qui ont pu me dire, surtout s'il y a une réponse qu'il ne faut pas donner à un patient, c'est « je ne sais pas ».
Ah.
Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je ne suis pas du tout d'accord avec le fait que justement, on sache tout, qu'on puisse tout. Je crois qu'au contraire, reconnaître que on ne sait pas tout et que, par exemple, quand un patient il me demande aujourd'hui dans combien de temps je vais mourir, ouais. je ne sais pas, en fait. Et je crois que donner l'impression qu'on sait, bah, c'est trahir, en fait, finalement.
Et là, ça rejoint la soif de toute puissance.
Exactement. Mmh. Et c'est vrai que sur la question de la technique médicale, inévitablement, le développement de la médecine à travers les siècles, il est allé vers ça. Alors, c'est très positif, évidemment. On ne serait pas là s'il n'y avait pas eu tous ces progrès, évidemment, de la médecine. Mais c'est vrai que ça a pu conduire à un moment donné à cette illusion que la médecine pouvait tout, en fait. Et pouvait tout jusqu'à, finalement, repousser presque éternellement les limites de la mort. Et on voit bien que ce n'est pas le cas.
Oui, c'est ça. Et on le voit encore aujourd'hui. En tout cas, on va faire une pause musicale et puis vous nous expliquerez après comment le soignant, justement, est confronté à des limites puisqu'il ne peut pas sauver des vies systématiquement. Et puis, nous verrons aussi comment le soignant est face à un choix crucial hein, pour son patient. Je vous propose d'écouter « Sixième sens » de Grand Corps Malade.
La nuit est belle, l'air est chaud et les étoiles nous matent. Pendant qu'on kiffe et qu'on apprécie nos plus belles vacances. La vie est calme, il fait beau, il est 2h du mat. On est quelques sourires à partager notre insouciance. C'est ce moment-là, hors du temps, que la réalité a choisi. Pour montrer qu'elle décide et que si elle veut, elle nous malmène. Elle a injecté dans nos joies comme une anesthésie. Souviens-toi de ces sourires, ce sera plus jamais les mêmes. Le temps s'est accéléré d'un coup et c'est tout mon futur qui bascule. Les envies, les projets, les souvenirs, dans ma tête y a trop de pensées qui se bousculent. Le choc n'a duré qu'une seconde, mais ces ondes ne laissent personne indifférent. Votre fils ne marchera plus, voilà ce qu'ils ont dit à mes parents. Alors j'ai découvert de l'intérieur un monde parallèle. Un monde où les gens te regardent avec gêne ou avec compassion. Un monde où être autonome devient un objectif irréel. Un monde qui existait sans que j'y fasse vraiment attention. Ce monde-là vit à son propre rythme et n'a pas les mêmes préoccupations. Les soucis ont une autre échelle et un moment banal peut être une très bonne occupation. Ce monde respire le même air mais pas tout le temps avec la même facilité. Il porte un nom qui fait peur ou qui dérange. Les handicapés. On met du temps à accepter ce mot, c'est lui qui finit par s'imposer. La langue française a choisi ce terme, moi j'ai rien d'autre à proposer. Rappelle-toi juste que c'est pas une insulte, on avance tous sur le même chemin. Et tout le monde crie bien fort qu'un handicapé est d'abord un être humain. Alors pourquoi tant d'embarras face à un mec en fauteuil roulant ou face à une aveugle, vas-y tu peux leur parler normalement. C'est pas contagieux pourtant avant de refaire mes premiers pas. Certains savent comme moi qu'il y a des regards qu'on n'oublie pas. C'est peut-être un monde fait de décence, de silence, de résistance. Un équilibre fragile, un oiseau dans l'orage. Une frontière étroite entre souffrance et espérance. Ouvre un peu les yeux, c'est surtout un monde de courage. Quand la faiblesse physique devient une force mentale, quand c'est le plus vulnérable qui sait où, quand, pourquoi et comment, quand l'envie de sourire redevient un instinct vital, quand on comprend que l'énergie ne se lie pas seulement dans le mouvement. Parfois, la vie nous teste et met à l'épreuve notre capacité d'adaptation. Les 5 sens des handicapés sont touchés, mais c'est un 6e qui les délivre. Bien au-delà de la volonté, plus fort que tout, sans restriction, ce 6e sens qui apparaît, c'est simplement l'envie de vivre.
Présence. Vivante Église, Isabelle Duché.
Nous sommes avec le docteur Marie Bourgoin, médecin en soins palliatifs à l'Oncopole de Toulouse, et nous abordons la fragilité dans le cadre de la fin de vie. Vous nous avez parlé, docteur Marie Bourgoin, de la fragilité et de la vulnérabilité du patient et du soignant. Et c'est vrai qu'on se disait, puisque le soignant ne peut pas toujours sauver des vies, hein, comme c'est l'expression qu'on entend souvent de nos jours, il est confronté à des limites. Quelles sont les options qu'il a pour sortir de cette impasse ?
Alors c'est vrai que voilà, si bien sûr c'est ce que je disais tout à l'heure, la médecine moderne elle a fait énormément de progrès, je crois que si effectivement on rentre en médecine en pensant que la médecine va tout pouvoir, on s'expose vraiment à une confrontation réelle, en fait souvent on dit ça, c'est le principe de réalité, mais où on prend bien conscience que malheureusement il y a des situations d'impasse. Si on prend l'exemple de la cancérologie qui est le milieu dans lequel je travaille, bien sûr que la cancérologie elle a fait énormément de progrès, elle a pu repousser cette question du décès par une maladie cancéreuse évolutive, mais en même temps elle engendre aussi des situations d'une complexité peut-être qu'on n'aurait pas connue s'il y avait eu moins de succession de lignes thérapeutiques. Donc quelque part, cette médecine, elle engendre aussi un petit peu ces problématiques-là. Elle, en repoussant les limites, elle crée des situations de complexité plus importantes. Et je crois que rapidement, en fait, le soignant, s'il reste dans cette idée que son rôle est là finalement pour guérir, eh ben, il va se confronter à une question d'une désillusion. C'est-à-dire que, heureusement qu'il y a des patients, bien sûr, qui peuvent guérir, évidemment, mais je crois que malheureusement, il y a aussi beaucoup de situations où ce n'est pas le cas et où le soignant va se trouver dans une situation de crise. Et finalement, s'il s'est construit uniquement dans cette intensité, dans cette posture un petit peu de surhomme, de celui qui peut tout, ben là, il va devoir finalement se confronter à la nécessité d'une reconstruction identitaire. Et je pense que ça peut participer parfois à la crise qu'on peut connaître pour les soignants qui vont avoir besoin justement d'un changement de carrière, aussi parfois d'une reconversion professionnelle.
Voilà. Et cette reconstruction identitaire dont vous parlez, ça passe par quoi ?
Mais je pense que c'est finalement prendre conscience que, alors même que nos études nous ont peut-être poussé à se dire non affecté, à pouvoir toujours trouver la juste distance. On en dit toujours ça dans nos études, oui, il faut trouver la juste distance. Je crois que c'est au contraire prendre conscience que ces situations-là nous affectent, qu'on ne peut pas tout, qu'il faut le reconnaître. Alors, je ne crois pas que ce soit forcément un choix. Quand on disait tout à l'heure, quelles options on a, je crois que malheureusement, c'est plutôt un malgré soi, en fait, finalement. C'est quelque chose qui va s'imposer à nous et qui va... à mon sens, mais c'est aussi la richesse de ces rencontres-là, c'est parce que c'est à travers ces confrontations aux patients que ça va se passer, mais ça va nous transformer, finalement. Et c'est vrai que moi, j'ai souvenir d'un professeur à l'époque, quand j'étais étudiante en médecine, mon grand professeur d'hématologie, qui nous avait expliqué que le jour où on perd un patient et qu'on a un patient qui meurt dans nos bras, on n'est plus jamais le même.
Ah oui, il y a un avant, un après.
Il y a un avant, un après. On n'est plus le même soignant, on n'est plus le même homme non plus. Je crois qu'il y a vraiment cette... ou la même femme, pour le coup. Je pense qu'il y a vraiment cette question-là, c'est qu'il y a quelque chose qui nous transforme et que contrairement à ce qu'on pourrait penser aussi, moi, c'est vraiment quelque chose que je trouve important, c'est de faire comprendre aussi aux patients, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, que les patients ne sont pas des numéros et que si parfois la médecine peut donner cette impression-là d'une certaine froideur ou d'une certaine distance, c'est faux en fait. Je pense que c'est aussi des mécanismes de protection des soignants parce que justement, c'est pas forcément quelque chose de facile. Mais en tout cas, à mon sens, ce qui peut aider, c'est donc de reconnaître que nous aussi ça nous affecte, de ne plus raisonner forcément dans une question de juste distance, mais peut-être de juste proximité finalement auprès du soignant et du patient. Et accepter que on peut aussi dire qu'une situation est difficile et s'autoriser aussi bien envers ses pairs, que au niveau de l'institution à dire que non, on fait pas un métier facile.
Oui, c'est ça. Ça demande humilité,
oui,
certainement.
Complètement. Hein, je suis très d'accord avec ça.
Alors, toutes ces rencontres que vous faites et tous ces non-choix auxquels vous êtes confrontés, ça crée comme des petits cailloux, des rencontres avec vos patients. Qu'est-ce qui vous révèle, en fait, toutes ces rencontres et tous ces accompagnements et puis avec ces victoires et ces échecs?
Alors c'est vrai que cette histoire des petits cailloux, c'est une infirmière en réanimation qui m'avait expliqué ça. On réfléchissait justement à qu'est-ce que ça faisait de rencontrer ces patients et elle me disait c'est comme si j'avais un gros sac sur le dos et puis à chaque fois je mets un petit caillou dedans. Et puis on s'était interrogé ensemble, on s'était dit qu'est-ce qu'on fait quand le sac est plein en fait, qu'est-ce qu'on en fait? Et puis on n'avait pas la réponse finalement, ni l'une ni l'autre, peut-être parce que ça s'est pas encore présenté et qu'on verra quand le sac sera plein. Mais en tout cas, Pour moi, cette question des petits cailloux, je crois que c'est aussi le chemin. C'est-à-dire que c'est un chemin qu'on... Vous me demandiez au début, qu'est-ce qui m'a amené là?
Oui.
Bah, finalement, c'est sans doute ces rencontres, alors que ce soit avec des professionnels, hein, bien entendu. Voilà, je sais qui sont mes maîtres et qui m'ont inspiré ma pratique. Et puis, il y a bien entendu les patients. Et c'est vrai que je crois que ces cailloux, c'est un petit peu comme quand on met la main dans une poche et qu'on retrouve un petit souvenir qu'on avait laissé là et qu'on avait oublié. Puis il y a quelque chose qui se révèle à nous. Et c'est vraiment pour illustrer justement que ces histoires, elles transforment quelque chose de nous. On emporte à chaque fois un petit bout de vie, un petit bout d'histoire, un petit bout d'expérience qu'on garde. Qui nous nourrit. Je crois que, voilà, alors bien sûr, la mémoire les transforme, parfois les mélange, évidemment. Mais en fait, moi, en tout cas, quand je réfléchis sur ces histoires-là, j'ai toujours des histoires de patients qui me reviennent en tête, alors que je n'y avais pas pensé forcément avant. Voilà. Et il y a quelque chose qu'ils font germer, même si eux n'en ont sans doute pas conscience, mais c'est vrai que. Alors même que, justement, eux, dans les rencontres qu'on peut faire avec eux, bien souvent, leur grande difficulté, c'est le sentiment d'être une charge, d'être un fardeau pour leurs proches, bien évidemment, mais aussi pour le système de soins, pour la société. C'est quelque chose qui revient beaucoup, le fait de se sentir inutile. Et en fait, je pense qu'ils ne mesurent pas, au contraire, ô combien ces rencontres peuvent être riches. Voilà, ô combien, vous le disiez, je fais un travail de thèse sur la question de la fin de vie, de thèse de philosophie. J'en serais jamais arrivée là si j'avais pas rencontré ces patients et j'avais jamais imaginé que je ferais ça dans ma vie. Et c'est eux qui m'ont amenée vers ça. Alors malgré eux aussi, ouais, bien entendu, ouais. Et sans doute sans le savoir. Mais je crois qu'ils révèlent aussi certaines choses. Moi, au quotidien, ça me permet aussi de prendre conscience, bah, bien sûr, que la vie est éphémère, que c'est d'une tristesse absolue, mais qu'en même temps, c'est ça qui fait qu'il y a des choses très belles dans votre existence. Et je pense que c'est aussi une façon... La fragilité, c'est aussi, en fait, finalement, la révélation de ce côté, beauté de l'existence. Je crois que sinon, on ne pourrait pas apprécier le présent.
Oui, c'est ça. Vous avez abordé les mots de charge, de fardeau, oui. Puisque on entend beaucoup dans les débats sur la fin de vie ces personnes qui se sentent en trop pour la société parce qu'elles ne sont plus utiles, parce qu'elles sont un poids pour leur famille et pour la société. Quand un patient perd apparemment cette autonomie, qu'est-ce qui lui reste?
Alors, c'est vrai que cette question de l'autonomie, c'est une valeur un peu, j'ai envie de dire, pilier de nos sociétés. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est utile à la société si on est fort, puissant, performant. Tout s'évalue en termes de performance. Et effectivement, la question de la maladie, de la vieillesse, du handicap, ça vient bouleverser ça parce qu'on est dans une société du culte de celui qui ne dépend de rien ni de personne, qui s'est fait tout seul. Moi, je pense qu'il y a au contraire une grande importance à pouvoir dire qu'on ne s'est pas fait tout seul et que c'est aussi l'influence des autres qui a fait qui on est aujourd'hui. Donc cette question de l'autonomie, elle est souvent pensée, malheureusement, comme cette question d'une indépendance. Or, c'est pas du tout ça. Cette question de l'autonomie, en fait, même si bien sûr elle va pouvoir être en quelque sorte altérée par la maladie, si on parle d'une autonomie ou d'une intégrité physique ou cognitive, bien sûr que la maladie va pouvoir modifier certaines choses. Quand on parle des maladies neurodégénératives, évidemment que l'autonomie ne va pas se manifester de la même façon, mais à mon sens, sauf dans des situations cliniques qui sont extrêmement rares, je pense par exemple aux états neurovégétatifs, des situations qui sont encore d'une complexité plus importante, mais dans toutes les autres situations médicales, il reste toujours quelque chose de l'autonomie du patient, c'est-à-dire quelque chose qu'il peut manifester sur ce dont il a envie ou pas envie, qui va être dans un environnement contraint, évidemment, alors de contraintes physiques, de contraintes peut-être institutionnelles si son lieu de vie n'est pas le même, mais que notre rôle va être peut-être d'aider à faire émerger en fait ces manifestations-là. Donc ça, je crois que c'est vraiment le rôle du soignant, et c'est vrai qu'on pourrait Voilà, conseiller la lecture d'un livre qui s'appelle Le scaphandre et le papillon.
Ah oui.
qui illustre l'histoire donc de ce journaliste qui avait eu justement un accident vasculaire cérébral et puis qui était dans une situation de Locking syndrome, c'est-à-dire complètement emprisonné dans ce qu'il appelait son scaphandre et qui finalement a réussi à écrire un livre. Alors sa situation était voilà, je veux pas du tout minimiser hein, la violence et le tragique de ces situations-là pour les patients et pour leurs proches, bien évidemment que c'est dramatique, mais néanmoins il a pu voilà écrire tout un récit et témoigner justement de ce qu'il traversait grâce à un battement de cils.
Il pouvait communiquer grâce à ses battements.
Exactement, un battement d'une paupière uniquement. Et il a fallu quelqu'un à son chevet pour se rendre compte que ce battement de cils, ce n'était pas un battement de cils anodin, mais que c'était justement un moyen de communication. Et donc je crois que cette question de l'autonomie, elle vient révéler que l'autonomie, voilà, encore une fois, c'est pas cette illusion d'indépendance ou d'autosuffisance, c'est qu'au contraire, l'autonomie, elle existe par la relation, et encore plus à travers la question de la maladie ou de la fragilité en général. Ça se construit pas contre les autres, mais ça s'érige pardon, grâce à eux, finalement.
Et ça, est-ce que ça a un nom, justement, cette relation ?
Alors, il y a certaines personnes qui l'appellent effectivement l'autonomie relationnelle. Et puis, il y a un philosophe québécois qui s'appelle Louis-André Richard qui l'a conceptualisé sous un terme qu'on appelle l'allonomie. Voilà, c'est-à-dire, voilà, vraiment, c'est cette autonomie relationnelle, finalement. Et c'est le fait que, parfois, cette autonomie, elle se résume en effet à un battement de cils et qu'il va falloir quelqu'un au chevet du patient fragile pour pouvoir lui permettre de l'exprimer.
Oui. Quelle est donc la responsabilité du bien important pour terminer ?
Eh bien, justement, je crois que cette responsabilité, elle est déjà dans, évidemment, l'attention que l'on peut porter à ses patients pour rechercher ces manifestations-là qui sont parfois extrêmement... extrêmement
ténues.
Oui, exactement. Et puis, c'est aussi comprendre que, en fait, cette dimension relationnelle, elle existe dès notre construction identitaire. C'est-à-dire que, en fait, je deviens quelqu'un parce que je suis dans le regard d'autrui et je suis qui je suis parce que le regard d'autrui me renvoie. Donc ça veut dire que si moi, c'est autrui qui m'aide à me construire, j'ai aussi une responsabilité sur la façon dont je permets à autrui de se construire. Et donc là, il y a vraiment quelque chose qui est important, c'est-à-dire que le regard que je vais porter sur l'autre va avoir une responsabilité sur le sentiment qu'il a de son identité. Et ça, c'est très important parce que là aussi, je vous recommande et je recommande vraiment à tous les soignants qui pourraient nous écouter la lecture d'un ouvrage de Claire Marin qui s'appelle « Hors de moi » et qui parle de cette question de l'identité du malade et qui dit que voilà, elle n'est ni masculin ni féminin. Elle est malade d'un genre neutre parce que l'identité de malade a phagocyté toutes les autres. Je crois que notre responsabilité, c'est justement d'éviter que cette identité de malade phagocyte toutes les autres et de permettre en fait, effectivement, de changer notre regard sur la fragilité et de permettre à ces patients de rester eux-mêmes, finalement.
Oui, c'est ça. C'est ce que vous disiez au début de cette émission, vraiment que le malade reste personne humaine et qu'il ne soit pas vu que sous le prisme de sa maladie.
Tout à fait.
Ouais. Pour terminer, Marie Bourguin, qu'est-ce que vous diriez de ce qui se vit au cœur des soins palliatifs ?
Alors, la question des soins palliatifs, elle est éminemment importante. Je pense que c'est justement peut-être une pratique médicale qui reconnaît peut-être cette question des limites, qui reconnaît cette question de la fragilité. C'est peut-être un lieu où ces choses-là peuvent se dire plus facilement et où elles sont plus acceptables. Donc je crois que le domaine de la santé au sens large a sans doute beaucoup à apprendre de cela. Après, on a une richesse que beaucoup d'autres services, par exemple, n'ont pas, c'est la question du temps. Crois que c'est quand même important et c'est ce qu'on défend aussi. Et peut-être cette question vraiment du fait de pouvoir reconnaître qu'on peut être affecté par des situations et que c'est pas une faiblesse justement et que ça peut nous transformer aussi. Même si bien sûr c'est pas facile et que ça génère beaucoup d'incertitudes, que ça peut générer aussi beaucoup d'angoisse, mais que c'est jamais du désespoir. Ça, je crois que c'est aussi important. Peut-être c'est que travailler en soins palliatifs, c'est pas triste. Ça peut l'être, bien sûr, mais comme dans beaucoup d'autres domaines du soin. Et que c'est extrêmement riche. Et que, justement, la fragilité, elle peut éveiller à La beauté des rencontres, ce temps de l'altérité, elle peut révéler des choses qui sont parfois invisibles et elle peut être aussi, elle peut permettre aussi de réenchanter finalement un quotidien. Alors ça paraît fou peut-être, mais non, c'est vrai, je crois que ça peut donner un sens différent à un quotidien et nous permettre à nous, soignants, de prendre conscience de l'importance des petites choses, en fait, finalement. Et puis, ce qui est important, c'est de se rendre compte aussi de ce que les patients peuvent nous transmettre, justement, de le leur faire savoir, à leurs proches, je crois. Et c'est souvent ce que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'en fait, dans ces moments-là, ils nous donnent ce qu'ils ont de plus précieux, et c'est leur temps. Parce qu'on sait que ce temps-là, il est compté et qu'il se vit des choses dans ces moments-là, effectivement, très importantes pour eux, très importantes pour leurs proches, mais très importantes aussi pour les soignants. Ça, je crois que c'est important.
Merci beaucoup, Marie Begouin. Merci pour votre témoignage qui nous fait beaucoup réfléchir et beaucoup avancer dans cette question de la fin de vie. Je rappelle que vous êtes donc médecin en soins palliatifs à l'Oncopole de Toulouse et je vous souhaite bon courage pour votre thèse.
Merci beaucoup.
En philosophie sur ces questions de la fin de vie. C'était Vivante Église, votre émission quotidienne de la vie chrétienne en Occitanie. Merci.
Merci.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.